Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Comme les autres. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martineau.
Cube Radio.
Alors, nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour, Christian.
Bonjour, Richard.
Je veux absolument parler de François Mitterrand avec vous. C'est le sujet de votre chronique d'aujourd'hui. On sait qu'on célèbre les 40 ans de l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et il faut se replacer dans le contexte. C'était vraiment le début d'un temps nouveau, le paradis à la fin de vos jours. Les gens qui s'embrassaient dans la rue, c'était presque comme à la Libération, presque. Mais et Christian, j'aimerais que vous m'expliquiez... l'amour des Français pour Mitterrand, de certains Français, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, François Mitterrand, c'est quelqu'un qui a frayé avec Vichy. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en pleine guerre d'Algérie, a autorisé l'utilisation de la torture. C'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, était ami avec René Bousquet, qui était chef de police à Paris, qui était responsable des rafles des jeunes juifs pendant l'occupation nazie. C'était son ami intime, il le recevait à l'Élysée. Pour moi, Mitterrand est un personnage odieux. Comment ça se fait qu'on peut expliquer que on tend à cacher les aspects sombres de François Mitterrand?
Oui, je pense que vous avez raison. François Mitterrand lui-même a caché ces aspects sombres que vous mentionnez. Il a lui-même, je dirais, fabriqué un peu sa propre mémoire, hein, fabriqué son propre personnage et a amené beaucoup de soins à ça. Ceci dit, François Mitterrand, c'est un personnage qui a traversé le siècle, hein, c'est un enfant qui est né à la fin de la Première Guerre mondiale, qui va traverser, comme vous l'avez dit, la Première Guerre mondiale, qui va frayer avec Vichy, mais pas très longtemps quand même. Okay. Il va quand même être décoré de la Francisque, hein, la grande décoration là, du maréchal Pétain. Ceci dit, il va entrer dans la résistance après. Donc, c'est un personnage extrêmement contradictoire. Hein. François Mitterrand, il fraye avec Vichy parce qu'il se souvient évidemment de Pétain, celui qui a gagné la guerre de 14, l'espèce de père la victoire des Français. Il va rentrer dans la résistance, il va s'opposer à De Gaulle et il arrive en 81 comme le représentant d'une nouvelle génération. C'est assez fascinant le parcours de François Mitterrand.
Pardon, Christian Rioux, pardon, est-ce que c'était un résistant de la 23e heure?
Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est quelqu'un qui a joué un rôle dans la résistance. Il est nommé dans les mémoires du général de Gaulle. Dans une liste de responsables de la résistance, de Gaulle nomme François Mitterrand à un moment donné dans ses mémoires. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un vrai rôle dans la résistance. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a une opiniâtreté politique. Hein. Il se présente trois fois au présidentiel et la quatrième fois, il va l'emporter. Il va trouver le moyen, non pas d'être le représentant du passé, mais il va s'entourer de jeunes. Pensons à Jacques Attali, pensons à Jacques Lang. Il va faire accéder toute une nouvelle génération au pouvoir. Et comme je dis dans ma chronique, pour le meilleur comme pour le pire, parce que il y a des deux là-dedans. Et donc, imaginez, il gagne la présidence avec une affiche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affiche, son affiche de 1981. C'est François Mitterrand, La Force Tranquille.
La Force Tranquille,
avec,
ben oui.
Avec derrière un paysage de campagne absolument paisible.
Non, et surtout.
On voit un clocher.
Ben oui, on voit un clocher.
Mitterrand laté avec une église derrière lui. Mais vous voyez, c'est un grand politique, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, qui a des côtés sombres, qui a des côtés lumineux, et qui a traversé tout le siècle. Et les Français, je pense, sont admiratifs du personnage, de l'effort, sans compter que c'est un homme d'une culture littéraire assez
extraordinaire. Non, et Christian Rioux, je l'ai vu, une émission d'une heure à Apostrophe, tout seul avec Mitterrand, c'est passionnant, là. C'est incroyable.
Oui. Ses dialogues avec Marguerite Duras, par exemple, sont assez étonnants. Donc c'est vraiment quelqu'un de complexe. Et je vous dirais que les Français aiment ce genre de personnages-là. Ils aiment ça, des personnages compliqués, torturés, tortueux. Qu'on peut utiliser un peu finalement à toutes les sauces. C'est un grand politique, comme je vous dis, mais un grand politique qui a aussi ses côtés moins sympathiques.
Vous avez certainement vu, j'ai regardé ça hier en préparation de notre entrevue, là, j'ai regardé l'entrevue de Jean-Pierre Elkabbach, qu'on dit, avec Mitterrand sur son amitié avec René Bousquet. Oui. Je reviens là-dessus parce que moi, je bute là-dessus. Là. René Bousquet, pour moi, est un des personnages les plus épouvantables de l'histoire de France. Il était chef de police, c'est lui qui s'occupait des rafles, entre autres, du Veldiv et tout ça. Il est directement responsable de la mort de plein de Juifs dans des camps de concentration. C'était un ami personnel de Mitterrand. Il le recevait à l'Élysée. Comment on peut expliquer ça?
Écoutez, Mitterrand a toujours été extrêmement fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais renié ses amis, même s'ils étaient de l'ordre de René Bousquet, et s'il a fait ce que René Bousquet a fait. C'est aussi, je pense, tout le débat que vous soulevez là, c'est tout le débat sur le régime de Vichy. On qualifie le régime de Vichy de fasciste, par exemple. C'est un vocable que, en tout cas, la plupart des historiens en France réfutent. Ils considèrent qu'il y a peut-être eu des périodes fascistes chez Pétain dans le régime de Vichy, mais qu'on ne peut pas qualifier en général Pétain ni le régime de Vichy de fasciste. C'est différent. Ça n'en fait pas un ange, hein, pour autant, loin de là. Il y a même des gens, je pense au journaliste Éric Zemmour, qui soutient, lui, que malgré tous ses défauts, le régime de Vichy a protégé les Juifs français, pas les Juifs étrangers. Il y a un grand, grand débat ici là-dessus. Zemmour peut s'ostiner pendant une heure ou deux avec des historiens sur ce sujet-là. Vous voyez, c'est une question qui est encore... Personne ne veut réhabiliter Vichy. La question n'est pas là. Il n'est pas question de le faire, je pense. Mais on s'ostine encore en France sur les détails de cette histoire-là. On sait que Pétain a envoyé les Juifs dans les camps de la mort, qu'il en a envoyé un certain nombre. Est-ce qu'il aurait protégé les Juifs français là-dessus? Il y a des gens complètement en désaccord aujourd'hui encore en France. Je pense que ça montre la complexité de ce débat-là.
Oui, et comme premier ministre, il a pris à un moment donné un virage à droite au point de vue de l'économie. Il a géré à droite comme premier ministre pour le secteur économique, là.
Oui, ben en fait, Mitterrand, vous savez, arrive avec un programme un peu de briques et de broc, là. C'est un peu, il y a des nationalisations, on n'en peut finir là-dedans. Il a négocié ça avec le Parti communiste qui avec lequel il s'est allié parce qu'il sait qu'il peut pas prendre le pouvoir sans eux, mais qui va tuer pratiquement. C'est Mitterrand qui donne le coup de poignard au Parti communiste. Il va nommer quelques ministres de communistes dans son gouvernement, mais ce parti-là va disparaître après François Mitterrand. Et donc, oui, il a un programme fait de toutes sortes de choses. Il y a des choses plus flamboyantes, hein, plus extraordinaires là-dedans. L'abolition de la peine de mort, la libéralisation de l'audiovisuel, on double le budget de la culture, on crée un minimum vieillesse, on fait le prix unique du livre, hein, ça c'est fondamental. Les grands travaux, la pyramide du Louvre, etc., etc. Il y a tout ça, mais il y a effectivement en 83, ce que vous souligner une sorte de virage que prend François Mitterrand à ce moment-là. La France a un chômage de masse, on a nationalisé les banques, on a nationalisé plein d'entreprises privées que les socialistes, par après, vont passer 10 ans à dénationaliser, hein, et à revendre parfois aux amis du Parti socialiste. Et donc, oui, en 83, il fait un virage, et je pense que c'est un virage assez fondamental, parce que là, il choisit de rester dans ce qu'on appelle le système monétaire européen qui harnache quelque part le franc aux marques à ce moment-là, avant l'euro et après, ça sera l'euro. Et donc, je crois qu'il choisit, en tout cas, parce que la France aurait pu sortir du système monétaire européen. Elle aurait probablement passé une période difficile, puis se serait remise par la suite et on aurait assisté à un développement complètement différent. Mais là, il fait ce choix-là et je pense que Mitterrand, vous savez, c'est un homme qui, on le voit dans tous ses écrits, a toute sa vie été obsédé par l'Allemagne et je pense avec raison. Quand on a vécu deux guerres mondiales avec l'Allemagne, on peut être obsédé par la puissance de l'Allemagne. Et Mitterrand était convaincu, vous savez, quand il fait l'euro, quand il fait Maastricht avec Helmut Kohl, la fameuse photo où on voit Mitterrand qui donne la main à Kohl, là, par exemple, là, il y a une grande photo qui est très connue là-dessus. Quand il fait ça, il est convaincu que l'Allemagne est une puissance qui l'inquiète et qu'il faut absolument l'attacher. Il faut absolument lui mettre les fers et pour lui, c'est l'Europe. Il veut attacher l'Allemagne à l'Europe. Comme ça, il dit, on n'aura plus ces guerres, on n'aura plus ce problème-là. Sauf que faisant ça, étrangement, moi je pense que c'est la France qui l'attache à l'Allemagne. Et la France va devenir, d'une certaine façon, du moins sur le plan économique, le vassal de l'Allemagne. Vous savez, moi quand je suis arrivé en France, avant la monnaie unique, en 2000, on parlait de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe. L'économie allait très très mal. C'était un peu avant Schröder. Il y avait du chômage. Et la France allait très bien. Avait une balance commerciale positive. Et donc l'économie française était en pleine forme. C'était Jospin qui était là à cette époque-là. Et arrive l'euro et tout s'inverse. Tout s'inverse. C'est-à-dire que l'économie allemande reprend du mieux. Elle devient vraiment la puissance incontournable en Europe, celle qui va le rester, je pense, pendant longtemps. Et tout à coup, tous les indicateurs économiques français se mettent à descendre, se mettent à tomber. Et ça arrive au moment de l'euro. Et je pense et je suis convaincu que l'euro joue un rôle absolument massif. Souvent, on critique, bon, la bureaucratie, l'économie française n'a pas pu se convertir. Écoutez, il y en a eu des gouvernements en France, il y en a eu des économistes qui ont tout essayé, qui ont essayé beaucoup de choses. Mais je pense que le rôle de l'euro, surévalué pour l'économie française, un peu sous-évalué pour l'économie allemande, a changé complètement la carte économique en Europe.
Le virage,
il date de 83.
C'est ça, le virage à droite là, de la politique économique de Mitterrand nous a valu un spécial surréaliste à la télévision française animé par Yves Montand, homme de gauche, oui. Qui tentait de vendre le virage à droite de Mitterrand. J'ai vu cette émission-là, c'est vraiment surréaliste de voir un gars de gauche comme Montand parler comme un petit patron de droite française. C'était vraiment rigolo. Et Mitterrand, c'est aussi l'immigration massive. Faut le dire.
Oui, hein. Absolument. Absolument. Parler de virage à droite de Mitterrand, c'est un peu amusant parce que vous savez que Mitterrand, c'est un homme qui a baigné dans la droite et notamment sur le plan littéraire, tous ses grands auteurs étaient des auteurs de droite en général. C'est ça qui l'a nourri intellectuellement. Mais ceci dit, oui, je pense que l'autre grand angle mort de l'époque de Mitterrand, c'est tout ce qui concerne l'immigration et ce qui concerne le Front National, ce qu'on appelle ce qui est aujourd'hui le Rassemblement National. C'est-à-dire que Mitterrand, au moment où va arriver le moment de sa réélection en 88, il a de grands problèmes parce que son septennat a pas été brillant, il y a un taux d'insatisfaction énorme. Mais l'homme est rusé, hein. C'est un Machiavel. On le surnommait le Florentin. C'est pas pour rien, comme Machiavel d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui va tout de suite comprendre le parti qu'il peut tirer de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, là, vous savez, aux législatives en 81, il fait 0,18%. C'est une peanut, là. C'est quelque chose qui a aucune influence politique. Par contre, Mitterrand va comprendre comment il peut utiliser ce personnage-là. Il lui offre la proportionnelle. Il va faire élire 35 députés. Et il recrute Bernard Tapie, la plus grande gueule française possible, pour aller chasser le fascisme. Parce que là, le fascisme nous menace. Vous voyez, on va inventer ce discours, tout un discours antifasciste contre un personnage qui a à peu près aucune influence à cette époque-là. On va prendre un petit mouvement des banlieues, certes honorable, qui s'appelait SOS Racisme, mais qu'on va monter en épingle. La France est le pays du racisme. La France est le pays qui est menacé par le fascisme. Ça paraît complètement lunaire comme comme raisonnement, mais c'est ça que Mitterrand va utiliser. Et cette rhétorique-là va s'imposer dans le paysage politique français, alors même que des gens comme Jospin, des gens comme des anciens ministres comme Roland Dumas vont l'avouer dans leur mémoire un peu partout en entrevue. C'était du théâtre, cette histoire de fascisme. Mais ça va imposer tout un vocabulaire dans la vie politique française, un vocabulaire qui se rend jusqu'à aujourd'hui, voyez-vous,
ben oui.
Qui est encore présent aujourd'hui. Emmanuel Macron a remporté son élection en 2017 en l'utilisant pleinement.
Donc,
évidemment, on va passer sous silence toute la question, les deux grandes questions de l'immigration et de la sécurité dans les banlieues, qui, elles, vont être complètement mises de côté dès qu'on en parle. On est un fasciste, on est un raciste, on est, je sais pas quoi encore, comment on peut, quel qualificatif.
Bref, un fin renard, comme on dit, là.
Absolument.
Et moi, amateur de magazines et de revues, un des grands héritages de Mitterrand, c'est que ça avait donné naissance au magazine Globe, que j'aimais beaucoup à l'époque, là, des années 80, qui était vraiment bien. J'invite les gens à lire votre chronique super intéressante sur Mitterrand.
Vous savez, Mitterrand avait dit à un moment donné, après moi, il n'y aura plus que des comptables. il y a un petit peu de vrai là-dedans.
Oui, mais il avait une autre opinion de lui-même. Hein. Ça, quand même, il faut le dire. Là. Merci beaucoup, Christian Rioux.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.